appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mboujimayi, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à toutes et à tous, et merci d'avoir choisi Radio Capi, la fréquence de la paix qui vous propose parole aux auditeurs. Collision samedi 6 octobre dernier d'un camion-citerne avec un autre véhicule à Mbouba au Congo central. Le bilan officiel des victimes de cet accident de circulation est passé d'au moins 53 personnes, indique le ministère de la Santé dans un communiqué rendu public le lundi 8 octobre dernier. Le même document renseigne que 12 personnes sur les 84 blessés admis dans les hôpitaux de Kinshasa sont décédées des suites de leurs blessures. Ce drame relance les débats sur la problématique des transports et des gestions de produits inflammables en RDC. Qu'en pensez-vous? 081 890 49 69 09 97 06 49 69. Ce sont nos deux lignes pour intervenir en direct dans ce magazine. Vous pouvez également rejoindre d'autres internautes sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Jean-Claude Sala est à la mise en ordre de ce magazine coordonné par J.R. Lungembo et qui le réalise. Pierrot et la Mégie, j'ai le réel plaisir de vous le présenter. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Paroles aux Auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Vous êtes nombreux à commenter ces sujets sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. On se rappelle qu'en 2010, une autre catastrophe était survenue dans la localité des Sangué, dans la province du Sud Kivu. C'était le 2 juillet 2010, ayant causé près de 242 morts. Cela veut dire qu'un camion-citerne qui s'était aussi renversé, qui avait pris feu vers 18h lorsqu'il traversait Sangué, une bourgade habitée par 50 000 habitants à peu près. Alors beaucoup de gens se sont rués sur le camion pour pouvoir voler les carburants, récupérer. Et c'est ainsi qu'après l'explosion, le drame avait causé la mort de 242 personnes, y compris une soixantaine d'enfants. Et quelques années après, un autre drame survient dans le Congo central avec plus de 60 morts. Les camions qui entrent en collision avec un autre véhicule. Explosion suivie aussi de la récupération du carburant des véhicules dans les environs. Alors ceci relance les débats sur la problématique des gestions, la problématique des transports et la problématique de gestion des produits inflammables et leur transport. Vous êtes nombreux à commenter ces sujets. On se retrouve. Le débat se poursuit sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Nous sommes ensemble pour 57 minutes. 081 890 49 69, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Nous avons des petits soucis pour vous joindre dans vos milieux respectifs, mais je rappelle encore le numéro d'appel pour intervenir en direct, 081 890 49 69. Plusieurs commentaires sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs où les débats est en train de se dérouler en ce moment avec Marie-Paul qui nous écrit de Kisangani, Sylvain qui nous écrit des Mahagi, il y a Clément qui nous écrit des Kananga. Vous êtes nombreux en train de commenter ces sujets en ce moment même sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. En attendant que nous puissions pouvoir vous joindre pour vous qui êtes en FM dans vos milieux respectifs. Albert Mbakama qui nous écrit de Kinshasa dit ceci: personnellement, je suis stupéfait que ces drames se produisent en RDC. Nous avons la firme CEP Congo qui est bien expérimentée et qui possède des dépôts à Kinshasa et une tuyauterie bien installée assurant le transport souterrain des produits pétroliers pour ses clients entre Kinshasa et le Congo central en un clic. Alors pour lui, il se demande comment on peut transporter les produits inflammables dans ces conditions-là, alors que nous avons la société qui devait en principe s'en occuper. Alors Sylvain vient de nous rejoindre en ce moment même en ligne, en direct de Mahagui. Sylvain, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, merci pour avoir associé une fois de plus dans ces échanges. Je voudrais d'emblée, en préagé, présenter mes condoléances à cette famille, même si ça vient à l'état. Il faut dire que, comme vous l'avez aussi signalé, les événements de Sangay n'ont pas donné leçon à notre gouvernement, mais aussi à notre population. Et vous voyez ce qui s'est passé dernièrement au Congo central. Et ce qui est vrai, ça interroge sur la gouvernance anticipative et préventive de la circulation routière. C'est qu'aujourd'hui, je dis, dans notre pays, nous avons les services de la prévention routière. Et je dois d'abord ici dénoncer la condition dans laquelle ces agents travaillent chez nous, ici à Mitoui. Je suis à Mangui. Et ce n'est que la première année de fonctionnement, si je ne me trompe pas, de ces services. Alors que le service est très, très, très capital. J'ai toujours dit que la prévention dans une gouvernance d'État est un élément existentiel même de l'essence de l'existence de l'État. Et malheureusement, chez nous, quand vous observez, même ce qui s'est passé à Sangay, ce qui s'est passé au Congo central aujourd'hui, je vous ai dit aussi, c'est que si la RNDCF chez nous ici, entre Goli et la ville de Bounia, il y a toujours des équipes qui se renversent comme ça, avec des carburants, ça veut dire ces matières inflammables. Mais on se pose des questions des fois lorsque l'on regarde la population aller puiser comme si on allait dans les rivières pour puiser. On se pose des questions. Où est l'État? Et je suis avec un sentiment vraiment de regret, ce qui s'est passé là-bas au Congo central. Et je me suis posé des questions. Lorsque, même au niveau du conducteur, le chauffeur qui conduit un véhicule inflammable, ou des camions citernes, prenons d'une manière générale pour que les gens le comprennent, il faut qu'il soit instruit. Il faut qu'il soit instruit dans la façon de conduire. Et c'est là où maintenant intervient tout ce qu'on appelle gestion des circulations routières, il y a Transcom, il y a PSR, et ces services de prévention routière. Alors, lorsque vous voyez maintenant, le problème c'est au niveau du dysfonctionnement des systèmes. Et je pense qu'aujourd'hui, la responsabilité première, est au niveau du dysfonctionnement des services publics de l'État dans ce domaine-là de la prévention routière. C'est que si on pose la question aujourd'hui au gouvernement, nous servons des statistiques qui viennent du ministère de la Santé, mais moi j'allais souhaiter que les services habilités, que les services de prévention routière soient le premier service à nous annoncer ce qui s'est passé. Puisqu'il faut que les gens, soient informés. Les services de prévention routière, à mon information, et aussi les services qui surveillent les tonnages, qui surveillent les matières qui sont placées sur la voie publique pour la circulation. Et donc, lorsque l'on sait qu'un engin transportant des matières inflammables va quitter, par exemple, la zone A ou la zone B, on essaie d'évaluer au cours de ces parcours quels sont les éléments dangereux. Je donne un exemple. Supposons que dans ce parcours entre A et B, il y ait des usines de production. Ça veut dire les passages des matières inflammables à côté des usines, c'est un danger déjà. Et à ce niveau-là, il va falloir que les services d'anticipation de risque routier, ça veut dire les services de prévention routière, ici chez nous, interviennent en amont pour prévenir les transporteurs. Et donc c'est ce qui ne se fait pas chez nous. Comme nous l'avons toujours dit, et c'est regrettable, dans la plupart des cas, nous sommes pratiquement dans un pays où ce sont les conséquences qui sont gérées. Et je me pose toujours des questions. Le ministre José Makila, avec tous ces services-là de transport, où est-ce qu'il est? Comme vous avez vu, j'ai voulu faire rigoler les internautes. Monsieur Balmanga, qui nous a toujours donné des très bonnes leçons en matière de gestion préventive dans la situation routière chez nous, où est-il pour donner des conseils aux gens? Alors aujourd'hui, je dois dire seulement ceci, que ceux qui sont dans le trafic de produits inflammables s'informent, qu'ils prennent des précautions, qu'ils soient rassurés que les gouvernements mettent en place des mécanismes pour les protéger, puisque voyez-vous, ce commerce a perdu, mais aussi, nous avons perdu de nos compatriotes. Donc nous sommes pratiquement dans une république de bananes où il n'y a pas un État, et c'est comme ça les gens meurent vaille que vaille. C'est comme si nous étions dans l'Antiquité où on ne sait pas prévenir. Et j'interviens pour dire Aujourd'hui, les services de prévention routière qui est négligé, puisque je prends les cas de l'Ituri, je sais que les agents de ces services de prévention routière m'écoutent, c'est le service le plus négligé, les agents ne sont même pas payés, et j'ai comme impression qu'ils ne sont même pas formés, et c'est comme ça que nous sommes en train de tomber devant ces cas. Moi, j'ai toujours eu pitié, lorsque je tourne, et je vous donne les cas récents chez nous, c'est la RN27. Ça fait des semaines, il y a eu deux véhicules camions citernes qui se sont éclaboussés. Et heureusement pour nous, peut-être nous n'avons pas eu de citoyens qui pourraient courir comme aller fusée dans l'eau. Puisqu'il fallait que la police déjà intervienne et la police a surveillé cela pendant 3 jours. Ça, c'est entre axes, pour vous renseigner, entre axes Mike qui centre avant d'arriver dans la République de Ngoté ou de Pandourou. Et donc nous avons vu ça avec beaucoup de dangers et nous-mêmes, nous étions intervenus pour dire aux gens, attention, n'approchez pas, je sais que la police passe les services de sécurité et de grâce, n'allez pas avec vos bidons aller fuser de l'eau, puisque vous occupez ces produits-là, puisqu'on risque de penser que nous sommes en train d'aller fuser de l'eau pendant que les autres sont en train de fumer à nos côtés, et ça nous rappelle toujours les cas de Sangé, aujourd'hui les cas du Congo central. C'est vraiment pitoyable.
Merci beaucoup Sylvain, vous l'avez dit, en Ituri, des camions citernes, chaque fois quand ça se renverse, les gens ont tendance à aller s'approvisionner. Le problème de prévention routière, on devait déjà savoir que entre l'axe A et l'axe B, nous avons des usines, il y a des dangers, il y a une forte circulation, comme ça les chauffeurs peuvent être préparés. Mais nous avons associé à cet échange un expert dans la gestion des produits pétroliers, le transport, la gestion, la manipulation. Lui, il pourra nous dire qu'en principe, comment cela est organisé dans notre pays, la gestion et les transports des produits pétroliers, les hydrocarbures. Monsieur Hippolyte Moubi, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous êtes expert en gestion de produits pétroliers, des hydrocarbures. Vous avez plus de 30 ans d'expérience dans ce domaine. Et nous avons cette catastrophe qui arrive. Ce n'est pas la première fois. Alors, par principe, comment la gestion des produits pétroliers, le transport est-il organisé dans notre pays d'une manière brève?
Oui, au fait, c'est vrai, c'est que vous me posez une question de vous dire comment la gestion et des transports est organisée. Au fait, c'est vrai qu'il y a des règles, il y a des lois. Il y a la loi 015-012 du 1er août 2015, là où l'État organise. C'est pas n'importe qui peut transporter les produits inflammables. Pourquoi on appelle les produits inflammables? Parce que, les carburants à l'air libre produisent une vapeur. Cette vapeur se mélange avec l'oxygène de l'air et ça devient un produit inflammable. Un peu d'étincelle, un peu de chaleur supérieure au degré prévu, ça produit du feu et un feu, on ne peut pas maîtriser ce feu. C'est une explosion. C'est pourquoi il y a des services spécialisés, des gens qui savent comment transporter ça dans des véhicules autorisés à le faire. Chaque véhicule, par exemple, je donne un exemple, un véhicule qui transporte des hydrocarbures doit avoir un système de fil de cuivre à terre pour faire passer de l'électricité statique produite par le mouvement du produit par terre au chargement ou au déchargement. Il faut que ce fil soit mis à terre pour décharger cette énergie, mais personne ne le sait. Donc, le danger est partout. Alors, quel est le problème des transports dans notre pays? Les gens transportent n'importe comment, alors que le secteur est organisé, mais les gens ne suivent pas. Donc, il faut nécessairement un contrôle de l'État sévère, parce que les lois existent. Il faut qu'on contrôle ces véhicules qui transportent les hydrocarbures. Est-ce que les véhicules est approprié? Deuxièmement, il faut la sensibilisation de tous, et des transporteurs aussi, et de ceux de la population. La population ne sait pas ce que c'est hydrocarbures. Il faut qu'on arrive à sensibiliser la population. On n'approche pas les hydrocarbures. Vous savez, si vous avez une chemise en nylon ou un habit en nylon que vous portez, parce que tout ce qui est plastique, tout ce qui est peinture, tout ce qui est nylon, c'est des hydrocarbures. Ce sont des dérivés des hydrocarbures. ils produisent les mêmes effets que les hydrocarbures liquides que vous voyez. Quand vous marchez, vous bougez votre chemise, au frottement de votre chemise avec de l'air, vous produisez un champ magnétique électrique qui vous suit. Ces champs magnétiques-là, s'ils arrivent à rencontrer un autre champ magnétique du pétrole, et ils produisent du feu. Donc une chemise nylon que vous portez, vous pouvez produire du feu. Les gens ne connaissent pas. On n'approche pas un champ là où on manipule des hydrocarbures avec son téléphone, par exemple. Parce que le téléphone, quand vous téléphonez, l'arc qui sort là produit du feu. Et tout ça, ce sont les petites choses, mais que les gens doivent s'approprier. Sinon, alors tout le monde fait n'importe quoi, et puis on a du feu, on a des cas de sangle. Maintenant, c'est pas Congo, mais ici à Kinshasa, c'est pas exclu qu'un jour, par exemple dans la ville de Kinshasa, vers Massina, vers le rond-point Gaba, ou des agglomérations où il y a beaucoup de gens, rond-point Victoire, où les véhicules transportant les hydrocarbures frottent les gens, un petit feu, et on va connaître les mêmes problèmes.
Il y a tout à l'heure, oui. Voilà, dans le débat sur la page Facebook, Monsieur Hippolyte Mobi, il y a les auditeurs qui reviennent sur le rôle de la société CEP, parce qu'il y a un auditeur qui a écrit que pourquoi ne pas confier les hydrocarbures à la société spécialisée qui a un mécanisme de pouvoir transporter ces carburants, ces produits en toute sécurité. Faudrait-il aujourd'hui que chaque société privée qui exploite les domaines des hydrocarbures puisse avoir ses camions, puisse organiser son transport?
Au fait, c'est vrai ce que vous dites. Depuis la création de CEP en 78, on a confié à CEP la responsabilité de manipuler, transporter, stocker et distribuer des hydrocarbures de tous les pays. Et puis, il y a d'autres rôles. On lui a donné dans la douane, c'est-à-dire de douaner ses produits au profit de l'État, prélever les taxes au profit de l'État et contrôler, parce que il faut aussi savoir si réellement ce qu'on vous a vendu, c'est du gazoil ou de l'essence ou du pétrole. Ça, c'est le rôle de CEP, que CEP avait depuis 78 jusqu'en 2015. Et la loi dont je vous ai cité ici, cette loi-là a libéralisé. Donc, tout Congolais peut faire le même service que CEP rendait. Avant, CEP était seul, mais maintenant, CEP n'est plus seul, chacun peut faire. Alors, maintenant, il se pose un problème, ça. Je suis Congolais, il faut qu'on regarde tout droit. D'autres personnes font la même chose que CEP, mais ils ne respectent pas les mêmes standards que CEP. Ils sont ni formés ni quoi, mais pour eux, ils vont prendre des hydrocarbures, ils transportent même, il y a des citernes d'eau qui servaient à transporter de l'eau, ils achètent un camion citerne, tous les camions citernes, ce n'est pas les camions des hydrocarbures, ils viennent, ils bricolent, ils mettent des hydrocarbures dedans, c'est sans normes, et puis ils transportent jusqu'au jour où il y a un accident, et puis c'est ce jour qu'on va réfléchir. On a libéralisé. Mais maintenant, comme c'est libéralisé, moi je ne vais pas aller contre l'État, l'État a libéralisé, mais il faut que l'État mette les mécanismes de contrôle, que l'État dise, parce que la loi le dit, tout le monde doit se conformer, se mettre au standard comme CEP, mais il n'y a personne qui le fait apparemment.
Voilà, on va revenir à vous. Il y a beaucoup d'auditeurs qui voudraient bien intervenir dans cette émission. Je rappelle encore le numéro 081-890-4969. Mais le débat, comme je l'ai dit, c'est aussi sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Il y a Serge Mondambo qui nous écrit en disant « Les mêmes causes produisent les mêmes effets, dit-on. Cet accident nous rappelle celui des Sangay à l'est du pays. À mon avis, je pense que les législateurs congolais devraient se saisir automatiquement de cette occasion pour voter la loi sur le trafic des produits pétroliers dans les agglomérations. Si cette loi existe, il faudrait nécessairement renforcer la mise en application de cette dernière, obliger les propriétaires à respecter les heures de circulation des produits inflammables. C'est Serge qui nous écrit de Kinshasa. Trésor Likonza a dit, c'est bien de communiquer sur l'alourdissement du fichier des morts du accident, mais l'idéal aurait été d'en relever la cause et de prendre des mesures nécessaires pour dissuader les potentiels criminels. Alain Bolodua estime pour lui que cette situation relance les débats sur la régulation de la circulation des personnes et des biens, mais nous ne devons pas cependant perdre de vue que c'est un accident et donc un fait qui survient de manière aléatoire. Isaac Bampori qui, pour lui, il dit, mais tout ça, c'est au-delà du gouvernement, du dé national. Quelles sont les démarches entreprises aujourd'hui par le gouvernement pour faire face à ça ou éviter que cela n'arrive prochainement? Gabriel, vous êtes avec nous ici à Kinshasa. Merci de nous avoir rejoint. Bonjour.
Oui, bonjour, Pierrot et Lamegi, avec les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute.
Oui, bon, premièrement, seulement mes condoléances à toutes les familles éprouvées par rapport avec ce qui s'est passé à la route de Bakongo. C'est vrai qu'aujourd'hui, selon moi, j'ai suivi mon prédécesseur, ce qu'il a eu à intervenir, mais il est vrai qu'il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement de tout ce que le gouvernement planifie, même si on va libéraliser les entreprises pour que chacun se retrouve là où il est, mais en rapport avec camions inflammables, il faut qu'il y ait au moins une société, comme autrefois la CEP Congo, pouvait s'intéresser seulement pour le transport et puis empêcher que les autres puissent quand même être dans s'impliquer dans en rapport avec le transport de pétrole ou de produits inflammables. Parce qu'avec les accidents qui se produisent aujourd'hui dans cette route de Bas-Congo, vraiment, ce n'est pas vraiment à souhaiter, M. Pierrot.
Merci beaucoup, Gabriel. Vous estimez que, en dépit, hein, bien sûr, il y a la loi qui libéralise les secteurs, mais on aurait laissé le monopole du transport à la société CEP Congo pour éviter que n'importe quelle société puisse manipuler les transports des hydrocarbures et qu'on puisse connaître la catastrophe telle que nous l'avons connue. Merci beaucoup, Gabriel. Maître Sonville, vous êtes à Lubumbashi. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour.
Bonjour Monsieur Pierrot, bonjour à tous les millions d'auditeurs de la radio Capi. D'emblée, je commencerai par présenter mes condoléances les plus sincères aux familles éprouvées, puisque c'était un hasard qu'ils puissent se retrouver dans cette embuscade-là, dans ce drame-là. Par rapport à la solution que nous pouvons envisager, moi j'estime qu'en son temps, on ne voyait pas les camions, les citernes rouler sur des grandes avenues, au centre-ville, dans les quartiers résidentiels. Moi, j'estime que cette priorité doit être restituée à la SNCC. Puisque là, c'est le chemin de fer. Le chemin de fer se trouve dans des milieux du village d'Ambrousse. Il n'y aura pas de problème. Même si accident il y aurait, la population sera épargnée. Mais lorsqu'on accepte que ça soit, le transport soit fait sur la voie routière, il faudrait que le gouvernement prenne des dispositions. J'estime que, M. Pierrot, ce n'est pas le premier drame. On a connu les drames avec l'acide. Vous savez que l'acide est plus dangereux même que le carburant. Tout ce qu'on avait connu à Sangui là-bas, c'était l'acide. Maintenant, il y a deux cas qui se sont succédés par rapport au carburant à l'essence. Mais il faudrait que le gouvernement prenne des dispositions, puisqu'on a toujours dit que gouverner, c'est prévoir. Et si on restituait ce transport-là à la SNCC, la SNCC aura même des moyens pour payer ses travailleurs qui totalisent plusieurs mois d'impayement. Parce que c'est manque de production que peut-être l'SNC n'arrive pas à payer ses agents. Alors moi, j'aimerais que pour d'abord sécuriser la population. Et au-delà de ça, les citernes, là, ça roule sur des avenues trop étroites, il y a toujours danger. Si vous vous rendez sur la route Kasumbalesa, la route là, elle est trop étroite. Il y a risque que ces camions-là puissent connaître des collisions à tout moment. À ce moment, nous allons assister à des drames incommensurables. Et je me pose une question. Comment est-ce que le gouvernement est resté terne par rapport à un état pareil? Parce que dans des pays organisés, le ministre des tutelles, des transports, devrait même démissionner. Parce qu'aujourd'hui, les familles-là qui sont éprouvées, elles ne sont même pas prises en charge à cause de l'irresponsabilité de nos gouvernants. Parce qu'on ne peut pas accepter que le peuple d'un pays puisse connaître des décès, des morts à cause d'une mauvaise politique de gouvernance. Parce que vous savez que, M. Pierrot, si vous prenez un citerne d'acide, si ça explose, c'est tout un quartier qui va consumer dans le feu. Et quelles sont les dispositions? Et puis, au-delà de ça, il n'y a même pas de véhicules anti-incendie, des camions anti-incendie dans des grandes villes. Comme Lubumbashi, là, nous trouvons seulement un petit camion de la mairie et un petit camion à la SONAS. Mais lorsqu'on connaît des incendies pareils, il faudrait courir toujours à la MONUSCO. Mais on a toujours dit que nous sommes un pays souverain. Où est
merci.
Notre souveraineté?
Voilà, merci beaucoup, Sonville. Vous avez évoqué le cas du chemin de fer. Si on pouvait confier le transport à la SNCC, par exemple, parce que les voies ferrées sont éloignées de maisons d'habitation, en cas de problème, il y a moyen de pouvoir sécuriser la population. Si ça peut être confié à la SNCC, c'est pour le côté où la SNCC travaille. Ici, nous avons l'ex-Onatra. Si ces sociétés peuvent avoir la possibilité de transporter ces produits inflammables, il y a moyen de pouvoir protéger la population. Parce que là, vous l'avez dit, même sur la route de Kasumbalesa, les camions citernes circulent sur des routes qui sont étroites. On l'a dit. Ici, même dans des quartiers, ils viennent. Il y a aussi cette problématique des constructions des stations à service dans tous les quartiers aujourd'hui, même dans des agglomérations, des quartiers surpeuplés. Voilà autant de questions que nous allons revenir tout à l'heure à notre invité. Rappelons le numéro pour intervenir en direct, 081-890-4969, 09-97-06-4969.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Parole aux auditeurs.
Nous, comme nous avons des petits soucis pour les sorties des appels, on a des petits soucis pour vous joindre, ne vous inquiétez pas. Julien, merci de nous avoir contacté. Vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour.
Oui, bonjour, cher monsieur, et merci pour la parole. Hein.
On vous écoute.
Ok, je voudrais intervenir par rapport au sujet que j'ai pris au milieu. Là, je comprends bien que c'est par rapport à la sécurité de transport des hydrocarbures, je crois.
Exact.
En rapport avec l'accident qui a eu lieu sur la route du Bas-Congo.
Exact.
Bah, écoutez, comme les autres l'ont fait, hein, je dois exprimer ma compassion par rapport aux familles des victimes. Les familles de victimes que je plains par ailleurs, parce que, bon, comme venait de le dire Maître Somville, elles ne seront indemnisées que très difficilement si cela pouvait arriver. Et ceci m'amène à dire que nous ne devons pas, nous n'avons plus le droit de rester superficiels en analysant des drames comme celui-là, parce que ce n'est pas le premier. Et je crois que si nous continuons comme ça à être superficiels, ça ne sera pas non plus le dernier. Qu'est-ce que je propose? Moi, je proposerais que, par rapport à tout ce qu'il y a eu comme faille, parce que les produits, ça ne se transporte pas de n'importe quelle façon, par rapport à ce qu'il y a eu comme faille, que ce soit du côté du transporteur, que ce soit du côté des responsables qui ont donné les différentes autorisations à ce transporteur-là pour prendre des produits pétroliers, qu'il y ait des sanctions. Parce que sans sanctions, ça va se répéter. Et tant que ça va se répéter, ça sera des victimes. Nous allons continuer à exprimer nos compassions. Et ces victimes-là, ça sera des malheureux. Leurs familles ne seront jamais indemnisées. Vous verrez bien qu'en amont, il y a l'État. Mais l'État n'est pas au-dessus des lois. Lorsque l'État ne respecte pas ses propres lois, ça pose problème. Et lorsque ça pose problème, ça nous pousse à être profond, à bousculer, à acculer l'État pour qu'on le fasse, on lui fasse respecter la loi. C'est ça ma contribution. Mais je crois qu'au-delà de ça, s'il faut aller encore plus en amont, ben, je vais souvent au secrétariat général de transport pour des questions liées à la délivrance des autorisations de transport, à la délivrance des certificats de contrôle technique. Mais je dois vous dire que c'est n'importe quoi. On vous tient des discours, mais ces discours-là, on fait des textes de loi, des textes de règlement, mais ce n'est pas respecté. Vous verrez des gens qui n'ont jamais fait entrer leur camion dans les centres de contrôle, mais qui ont quand même des PV de quoi ça, attestant qu'ils ont été au contrôle et ils ont des certificats de contrôle technique. C'est très grave, mes frères, c'est très grave. Et si nous laissons la question aux seuls politiciens, on ne s'en sortira pas. Moi, d'ailleurs, je conseillerais à ces victimes-là, s'il y en a qui nous entendent, si elles n'ont pas de moyens, écoutez, pour attaquer l'État en justice, il y a dans les différents barreaux les bureaux de consultation gratuites pour des cas qui sont indigents, pour des indigents. Qu'ils s'adressent aux barreaux, aux différents barreaux, aux barreaux du Bas-Congo. Qu'ils s'adressent, qu'ils sollicitent des avocats, ils auront des avocats gratuitement. Et qu'ils attaquent l'État au besoin. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de secours? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un hôpital pour recevoir les blessés? Est-ce que les hôpitaux qui existent là-bas ont des centres d'urgence? Parce que des brûlures à ces degrés-là, franchement, il faut des soins intensifs. Mm-hmm. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de services de soins intensifs? Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de responsables? Et ça, franchement, moi je vous dis, ça énerve. ça énerve et on ne va pas continuer à déplorer des morts chaque jour comme ça. Ça énerve, il faut faire quelque chose. Et moi, ma proposition la plus concrète, c'est que ces victimes-là s'adressent aux bâtonniers du Bas-Congo, qu'on leur accorde des avocats s'ils en ont besoin, parce qu'il faut mettre en cause la responsabilité de l'État à tous les niveaux. Voilà, c'est ma petite contribution.
Merci beaucoup.
J'ai entendu.
Merci beaucoup, Julien.
Voilà, parce qu'il faut vraiment aller en profondeur pour qu'on essaie de mettre un peu fin à cette irresponsabilité généralisée.
Merci beaucoup, Julien. La question de la responsabilité, elle est très importante, vous l'avez dit. Il faudrait quand même à un certain moment qu'il y ait des sanctions, qu'on sache le transporteur, la société qui a transporté, les autorisations, parce qu'est-ce que la société même a-t-elle répondu à la conformité, aux normes qui sont exigées pour transporter les produits, voilà tout ça. Il faut aller un peu plus loin, parce que la semaine prochaine, nous aurons un débat uniquement sur la gestion des catastrophes, comment faire face, parce que là, on a vu les difficultés, que ce soit pour avoir des ambulances, évacuer les blessés, leur prise en charge, comment les gens couraient dans tous les sens. On va faire un débat la semaine prochaine sur cette dimension-là de l'organisation des secours, des services d'urgence, des prises en charge des catastrophes naturelles. Mais pour vous, il faut la responsabilité. On revient à vous, Hippolyte Moubi. Vous avez suivi les auditeurs. Il y a même son ville qui estime que pourquoi ne pas réhabiliter le travail de la SNCC, parce qu'avec la voie ferrée, il y a moyen de pouvoir éloigner ce transport des zones habitables. Mais ici à Kinshasa, vous voyez avec nous comment les stations au service sont contiguës, elles sont créées presque partout dans les zones très confinées par la population, les camions en citerne qui circulent même sur toutes ces avenues trop étroites au vu au sud de tout le monde. Alors faudrait-il aujourd'hui commencer par quoi pour que la question de grande importance comme celle-ci puisse être prise au niveau du pouvoir public et que des mesures soient prises pour sécuriser les uns et les autres, Monsieur Moubi.
Merci bien, merci. J'ai bien suivi religieusement nos intervenants. Tous, ils ont raison. Et c'est comme j'ai dit qu'il y a une loi, mais qui n'est pas respectée. J'ai lu un peu, si vous autorisez.
Oui, très bien, oui. Oui, allez-y.
Le chapitre 3 de la loi, il dit du transport et du stockage de produits pétroliers. Article 109. Les chargements, l'enlèvement, les transferts et les déchargements de produits pétroliers d'un lieu à un autre, ainsi que leur entreposage, sont soumis à l'autorisation préalable du ministère ayant les hydrocarbures dans ses attributions. Vous comprenez ça?
Exact.
Ça signifie que personne ne peut transporter, ne peut toucher, manipuler les hydrocarbures sans l'autorisation du ministère des hydros qui a les hydrocarbures dans ses attributions. C'est l'article 109. 110, 111, c'est la même chose. C'est déterminé par cette loi. J'ai l'exemple de la loi, celui qui veut, il me contacte, je vais lui donner ça. Mais le problème, c'est pas là. Le problème, c'est est-ce que cette loi est respectée? Est-ce que cette loi est contrôlée? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent contrôler si cette loi est réellement mise en vigueur? Des gens qui transportent les hydrocarbures, même à travers la ville, le matin, soir, midi, est-ce qu'il y a un service qui peut l'arrêter, voir si ce véhicule est conforme? Est-ce que la voie qu'il a empruntée est sécurisée pour arriver au bon port? Est-ce qu'il y en a? Je ne crois pas. Pour moi, je n'en vois pas. Alors, c'est ça le problème. D'un côté, c'est-à-dire, avoir une loi, c'est une chose, mais respecter la loi ou l'appliquer, en est une autre. Est-ce qu'il y a un mécanisme prévu pour contrôler l'exécution de cette loi? C'est là le problème. C'est pourquoi, moi, j'ai dit, premièrement, que l'État prenne en charge la sensibilisation, des émissions de sensibilisation. Quand il y a un bidon d'un litre, la fois passée, je vous ai dit, un litre de carburant peut produire 200 litres de vapeur. Et les 200 litres de vapeur mélangés à l'air libre, c'est-à-dire à l'oxygène, peut produire 13 000 litres de vapeur inflammable. Donc, et si ces vapeurs rencontrent un petit feu ou une température qui peut l'exploser, il peut détruire un bâtiment de deux étages. Mmh. Et ça, les gens ne le savent pas. Que chemise en nylon. Quand vous passez, il ne faut pas passer près de la station qui peut produire du feu. Les téléphones près de la station, on voit des gens en train de prendre des téléphones et puis maintenant, de prendre du carburant à la station et puis de l'autre côté, les enfants ou madame en train de téléphoner et lui est en train de prendre. Il met la vie et de la station et sa vie et la vie de ses enfants en danger. Les fumées, mais chacun fume là où il veut. Près de la station, il a sa cigarette et puis il prend du carburant. Et ça, il faut qu'il y ait un service de sensibilisation. Les gens doivent mettre en tête ça, que c'est dangereux. Deuxièmement, il faut qu'il y ait une formation, qu'on forme les chauffeurs même. Quand un chauffeur prend un véhicule qui n'est pas, qui n'est pas un véhicule de transport des hydrocarbures, il met des hydrocarbures, est-ce que ce chauffeur sait qu'il met sa vie, lui-même les chauffeurs en danger? Il ne le sait pas. Mais il transporte parce qu'il veut gagner l'argent, mais il se met en danger. C'est tout le monde. Il met non seulement lui-même en danger, mais la vie de tout le monde. Est-ce que quand moi j'approche un véhicule, je vois qu'un chauffeur est en train de fumer à côté d'un véhicule, est-ce que je sais que ce monsieur a mis en danger et la vie de tout le monde, et ma vie à moi, et sa vie à lui? Est-ce que ça je sais?
Donc voilà. Il faut. Mais est-ce que. Mais oui. Mais est-ce que dans cette organisation, y a-t-il des heures précises, vous qui avez cette loi, y a-t-il des heures précises pour la circulation des camions citernes où elles peuvent circuler à tout moment et se retrouver sur la chaussée avec dans les flux des véhicules, comme on le voit sur la route de Bas-Congo, par exemple, du Congo central?
Les heures, il n'y en a pas. Mais il est question d'organiser. La loi, j'ai lu la loi, il n'y a pas des heures. Mais c'est question d'organiser des gens, des services concrets. Pour l'État créer un service de sensibilisation et de former en forme les gens, on va dire, voilà l'heure à laquelle vous devez circuler, par exemple les nuits, ou bien tout ça, je ne sais pas comment, voir l'heure où il n'y a pas beaucoup de danger. Quand un chauffeur roule à 150 à l'heure ou à 200 à l'heure sur la voie de Bas-Congo, qui a beaucoup de courbures et tout accidenté, est-ce que ce chauffeur sait qu'il met sa vie lui-même, sa vie en danger? Il ne sait pas. Est-ce qu'il sait qu'il met la vie des gens qui sont avec lui? Non. Même ceux qui sont avec lui, savent-ils que ce chauffeur, en roulant comme ça, il met sa vie en danger et ma vie propre? C'est un suicide collectif, ça.
Mmh. Mais alors, quand on a évoqué tout à l'heure là, le cas de construction des stations service à Kinshasa, on le voit à proximité de vis-à-vis, et on voit aussi à côté des maisons d'habitation, de boutiques, de magasins à côté. On est un peu dans ce marché ouvert. Alors, mais est-ce qu'il n'y a pas de précision, la distance qui doit être respectée entre la dernière maison habitable avec une station-service? Parce qu'il y a des quartiers où, sûrement, on ne sait pas où se trouve la limite entre la station, le marché, le boutique, les magasins, et ce qu'est les maisons d'habitation.
Exactement. Je vous dis que avant 1978, avant de 2015, quand on a libéralisé, je sais que moi, dans la société qui m'a employé, nous avions la lourde responsabilité de voir si les stations construites répondent aux normes pour que nous puissions que cette société aille déposer des hydrocarbures là. Ça, ça existait. Mais depuis qu'on a libéralisé, c'est le ministère qui doit, au fait, voir. On ne construit pas une station dans des agglomérations. On ne met pas des hydrocarbures dans des maisons. Maintenant, on trouve des dépôts de carburant par-ci, par-là, dans les quartiers. Chacun a son terrain, c'est sa parcelle, les véhicules viennent avec des fuites, des poses, et tout ça. Ça, c'est n'est pas... Au fait, c'était réglementé, les règles existent, les standards internationaux existent, mais personne ne le respecte.
Personne ne le respecte. Voilà, on va revenir à vous... Hippolyte Moubi, on va revenir à vous, le temps d'écouter encore les auditeurs. Ismaël, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs. Ismaël, bonjour. Des petits soucis, hein, des lignes téléphoniques, on va revenir à lui. On va à Kolozi, Émilie, merci de nous avoir rejoints. Bonjour Émilie. Émilie, vous êtes avec nous de Kolozi, bonjour. Sûrement, on se retourne sur On revient sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs parce que là, les caprices de la technologie, on a des petits soucis depuis un moment avec le téléphone Maître Clément qui nous écrit des Kananga. Je pense bien que la réglementation en matière des transports existe dans notre pays. Je crois, à mon avis, qu'il faut pour les usagers, cela veut dire les conducteurs, une formation très spéciale sur l'application concrète de mesures quand on transporte les produits inflammables. La vérité chez nous, c'est que tout le monde peut conduire, ce qui n'est pas le cas ailleurs. La sécurisation de la population par le gouvernement ne doit pas consister en la publication de bilans provisoires des incidents plutôt que de faire ce qu'il faut faire en amont pour éviter qu'on puisse compter des morts. Marie-Paul nous écrit de Kisangani, c'est bien dommage. Les accidents des circulations en RDC ont dépassé leur seuil de tolérable. Ces récurrents accidents des circulations sont occasionnés par le non-respect du code de la route, les surcharges des personnes et de biens, les délabrements sérieux des routes, l'absence de l'État et la cupidité des uns et des autres dans la délivrance de certains documents. John Lessa nous écrit depuis les territoires de Demba dans le Kasaï central. La question en place devait être résolue par les autorités. Le transport congolais jusque-là n'a aucune sécurisation. C'est une situation qui embrouille toute la République, pas seulement à Bouba. Même ici à Kananga, les autorités ne s'apprêtent pas à rectifier cette erreur. Il est nécessaire que l'État congolais entrevoie d'abord des solutions pour la protection de la population dans le domaine des circulations des hydrocarbures. John nous écrit d'Isiro en estimant que ce qui se passe au Congo nous donne encore envie de pouvoir pleurer parce qu'on sait qu'il n'y a pas une grande préoccupation. Christian, qui nous a écrit de Bandunduville, pour lui, il estime qu'il serait plus prudent que le camion qui transporte les produits inflammables commence à circuler à partir de 23 heures. Y compris aussi des remorques de transport d'une manière globale. Parce que là, on a deux problèmes sérieux. Il faut sécuriser les transporteurs, mais pourquoi ne pas il faut aussi sécuriser la population. Alors, nous revenons à vous, Hippolyte Moubi. Vous qui êtes expert qui animez un cabinet, est-ce que il y a aujourd'hui l'organisation des transports, des sociétés privées de commercialisation des hydrocarbures? Y a-t-il aujourd'hui des formations de remise à niveau dans la manipulation de ces produits? Est-ce qu'ils sollicitent aujourd'hui le conseil des experts pour savoir comment manipuler quand on veut créer une station de service, quand on veut se lancer dans ce domaine? Est-ce qu'ils viennent vers vous, les experts, pour solliciter une formation aujourd'hui?
Oui, au fait, c'est vrai ce que vous dites. Les gens qui ont su la conscience qu'un accident pareil détruit le matériel de production que vous avez, et puis détruit les vies humaines, et ça fait de frais, ils viennent nous demander conseil. Ils viennent nous demander conseil, et nous les orientons, et nous les conseillons, tout ça. On organise des formations pour eux, des formations de base, pour qu'ils voient. Mmh. Il y a même les conducteurs, comme notre ami de Kananga qui a dit, les conducteurs de produits des hydrocarbures, des véhicules qui transportent des hydrocarbures, doit avoir une formation. Il y a une formation là-dessus spécifique, c'est comment il peut le faire. Mais on retombe sur le même problème, plusieurs patrons trouvent que la formation, parce que la formation coûte cher, on doit inviter un formateur, on doit louer la salle, on doit louer le matériel, on doit payer tout le monde et tout ça. Alors, quand vous donnez la facture, évidemment, ils trouvent qu'ils ne gagnent rien. Ils perdent de l'argent. Alors, ils ne viennent pas chez nous. Et puis, ils préfèrent faire n'importe quoi. Et puis, quand ils perdent son matériel, ils perdent les vies humaines. Et bon, et tout ça, maintenant, c'est à ce moment qu'ils souffrent. Mais, au fait, nous sommes disposés à faire des formations, à organiser des formations pour les chauffeurs, organiser des formations pour les travailleurs, ceux qui manipulent les hydrocarbures aux environs de ces sociétés, et aussi pour la population tout entière de Kinshasa. On peut organiser, mais le problème, c'est que les gens, il faut que quelqu'un sache qui prend la formation en charge. C'est ça le problème.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, la société... Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, la société CEP Congo a-t-elle un regard encore sur... le transport, les stockages, la distribution qui s'est fait chez les privés aujourd'hui, a-t-elle un droit de regard pour contrôler la conformité et voir même pour savoir si la qualité des produits, tout ça, est-ce qu'elle a un droit de regard sur ce qui se passe dans les sociétés privées aujourd'hui?
Ça, je m'engage. Bon, c'est une société privée, je vais pas. C'est vrai que lui, il n'a plus l'autorisation de contrôler parce que chaque produit hydrocarbure, avant, quand ça venait, CEP devrait d'abord faire la conformité des qualités, délivrer un certificat de qualité. Dès qu'il a vu que l'indice d'octane, bon, je n'entre pas dans les termes techniques, l'indice d'octane, le cache point, si tout est conforme, il déclare que ce produit, c'est tel produit. Parce que pour savoir que tel ou tel est produit, parce que les hydrocarbures sont, c'est les mêmes produits. Même les plastiques, c'est des hydrocarbures, des dérivés des hydrocarbures. Mais c'est qui les différencie? Techniquement, il y a des indices d'octane, il y a ceci, il y a cela là-dedans. Alors, ce n'est pas un laboratoire pour faire ça. Mais il le fait maintenant. Avant, il faisait pour tous les produits qui entraient. Avec la libération, mais les gens ne viennent plus. Ne viennent plus, bon, chacun prend son produit, il vient, il vend, il passe plus par ça, il va dédouaner. C'est pas avec les droits de dédouaner tous les produits de la République, parce que là, au moins, ils contrôlaient les statistiques. Maintenant, ils ne contrôlent que ceux qui veulent aller à CEP, les majors qu'on appelle. Ceux qui passent par CEP, ah, là, ils contrôlent la qualité, ils contrôlent les statistiques. Et puis, il prélève la taxe de l'État, il va verser. Les recettes de l'État ont diminué, j'ai des chiffres, tout a diminué parce que tout le monde ne passe plus par là. Donc, CEP ne peut plus le faire. Il n'a pas le droit d'aller et contrôler les produits de quelqu'un, à moins que ce dernier aille les lui demander. Moyennant une facture, évidemment, il doit payer.
Voilà.
Les gens ne veulent pas payer.
Et là, c'est un problème, oui. Et là, c'est un problème quand beaucoup de gens peuvent travailler dans cette... Dans ces libéralismes, si on peut dire ainsi. Alors Bernard, vous nous appelez de Calémie. Merci de nous avoir rejoint. Bonjour Bernard.
Bonjour, messieurs les journalistes.
On vous écoute.
Oui, je voudrais d'abord remercier l'intervenant qui vient de passer parce qu'il vient de faire une analyse très objective, contrairement à notre frère Sanville de Lumbashi qui mélange la politique avec cette émission qui est vraiment éducative. Ça, en tout cas, vous devriez avoir aussi le courage de recadrer, parce que chaque fois quand il intervient, il mélange tout. En ce qui concerne le sujet d'aujourd'hui, moi je pense que le gouvernement doit tout faire, puisque même ici chez nous à Calémie, il y a une station service qui est en construction en plein centre-ville, à côté des magasins et boutiques, et en cas d'accident, je pense que nous allons déplorer beaucoup de dégâts matériels et humains. Il faut que le service des hydrocarbures s'y penche vraiment. Et je félicite Radio Capi pour le choix du sujet d'aujourd'hui. En tout cas, courage.
Merci beaucoup Bernard, mais loin de nous l'idée de défendre son ville parce que vous avez évoqué les cas des politiques, mais rappelons quand même que la gestion des hydrocarbures, parce que vous l'avez dit, ce sont les politiques qui déterminent les lois, ce sont les politiques qui prennent des mesures pour pouvoir gérer tout ça. Et comme nous sommes en train d'en parler comme ça, on revient sur le gouvernement est composé par des politiques qui doivent en principe établir des normes qui doivent être respectées pour que la population soit protégée. Et vous l'avez dit, il y a là une station-service qui s'est construite en pleine ville. Et puis, bon, vous avez peur que demain, il y ait une catastrophe. C'est aux politiques qui dirigent la ville de pouvoir prendre des mesures pour effectivement protéger la population. Marie-Paul, on lisait tout à l'heure votre message sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Vous êtes avec nous en direct de Kisangani. Bonjour.
Oui, bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
On vous écoute.
Oui, monsieur le journaliste, il est bien dommage que les accidents en RDC sont devenus, dépassent maintenant les faits de tous. Pourquoi? Parce que on voit des jours et jours à travers les villes et à travers les provinces, les cités, il y a toujours des accidents. Et ces accidents, ces accidents sont dus par le fait que il y a moins de gens et il y a les problèmes de méconnaissance des codes de la route. Il y a les problèmes aussi d'élaborement des routes très avancées. Et cela aussi, c'est dicté par les soucis de cupidité du chauffeur. Vous voyez, les gens sont en train d'amasser les gens dans le cul, et lorsque les gens amassent des gens, et ils ne maîtrisent pas aussi les codes de la route, de la faire à ce que les collisions, les accidents soient toujours au rendez-vous. Voilà pourquoi il est demandé aux agents de l'ordre de pouvoir mettre un peu de l'ordre dans la circulation routière. Et en mettant de l'ordre, on ne peut pas permettre à n'importe qui de prendre le volant, on ne peut pas permettre aux gens qui ne maîtrisent pas les codes de la route de commencer d'assurer les transports des gens pour éviter un peu ce genre d'accident qui laisse à désirer, parce qu'on ne peut pas à tout moment s'attaquer aux conséquences au lieu de s'attaquer aux causes. On doit d'abord éliminer, on doit plutôt attaquer toutes ces conséquences, toutes ces causes-là, notamment le fait que les gens conduisent sans qu'il y ait des permis de conduire, les gens qui ne maîtrisent pas les codes de la route. Et si on attaque à ces causes-là, je crois qu'on peut en tenir la proportion des accidents dans notre pays, pourquoi pas dans nos provinces et partout ailleurs. Voilà ce qu'il fallait Merci. Un peu dire par rapport à ce sujet.
Merci beaucoup Marie-Paul. Nous revenons à vous Hippolyte Moubi pour conclure cet échange. On a suivi les uns et les autres, vous l'avez dit, vous êtes expert. Le problème c'est qu'il y en a qui peuvent aller consulter la société simple, il y en a qui ne consultent pas, mais le problème est là. Vous avez suivi notre ami Julien de Kinshasa qui a beaucoup insisté sur le fait qu'on puisse rétablir de responsabilité aujourd'hui après ce drame qui est survenu au Congo central, qu'on sache qui devait faire quoi, qui a fait quoi, qui a donné l'autorisation et qu'il y ait des sanctions. Malheureusement, c'est ce qui ne suit pas souvent, on l'a vu même après d'autres catastrophes qui sont arrivées. Alors qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure cet échange?
Oui, pour conclure, il y a un problème. Moi, j'ai dit qu'il y a des lois et ces lois ne sont pas respectées vu plutôt des accidents et tout ce qui se passe. Les lois ne sont pas respectées. C'est que à l'État de prendre aussi des mesures pour faire respecter les lois. Mais à la population aussi de chercher à se former. Il faut que l'État arrive à organiser des séminaires, des sensibilisations de la population sur cette matière. Et là, je crois que les uns et les autres, nous trouverons notre compte. Parce que quand il y a un accident, ce n'est pas seulement la population qui perd, c'est lui-même. Le transporteur, il perd, et son matériel, il perd, ses hommes aussi. Donc c'est une perte, et le pays perd aussi, tout le monde, et le pays. Et la population, et les commerçants, tout le monde perd. Alors qu'est-ce que nous gagnons, nous trois? Pourquoi ne pas alors monter pour faire mieux? C'est-à-dire organiser des formations pour les chauffeurs, organiser des formations pour ceux qui travaillent dans les hydrocarbures, organiser des séminaires pour la population, pour savoir on ne se rue pas vers un camion qui a des hydrocarbures, et des transporteurs, et tout le monde va gagner. Voilà.
Voilà. Mais il y a aussi cette question sur, comme je disais tout à l'heure, par rapport à la responsabilité. Vous avez dit le rôle de la population, mais quelque part on a vu qu'il y avait un moment la police qui s'occupait des hydrocarbures. On l'a vu. Mais comment peut-elle aujourd'hui jouer les rôles dans ce qui se passe sur terrain quand on voit des gens qui vendent l'essence dans leur maison, dans tous les coins des rues?
Justement, il y a une police, quand moi je travaille, il y a une police qu'on a dit, une police chargée des hydrocarbures pour respecter. Et cette police doit être outillée, formée, outillée et puis rendue effective pour qu'il travaille. Parce que c'est bien d'écrire qu'on a une police, mais si cette police n'a pas la matière, ni l'outil,
Merci.
Ni la formation, je crois que ça ne sert à rien.
Merci.
Donc il faut qu'on réveille tout ça. Il faut qu'il y ait un réveil collectif, que tout le monde sache que ça touche tout le monde. Ceux qui sont morts, ce sont nos frères. Celui qui a perdu son véhicule, c'est aussi
le
travail. Les gens qui travaillent chez lui ne vont plus travailler. Le véhicule n'est plus là. Donc tout le monde perd. Alors,
mettons-nous
au travail.
Nous, merci nous beaucoup, Hippolyte Moubi. Merci beaucoup, Hippolyte Moubi, expert en gestion de hydrocarbures. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Merci aux auditeurs. Hein. On s'excuse pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité de s'exprimer, compte tenu des petites difficultés avec les appels entre le studio et vous. Merci à Jacques-Claude Siala, à Gilles Lungebo pour la production de ce magazine. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures avec Parole aux auditeurs. Cette émission, c'est sur www.radiocapi.net. Merci pour votre sympathique attention. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.